Bonjour, donc juste je précise avant de commencer, beaucoup me connaissent ici en tant que représentant porte-parole d'Europe Écologie. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Là, je représente deux associations dont je suis membre, la CIPRA, qui est la Commission internationale pour la protection des Alpes, et Montagne Wilderness, qui est aussi une association nationale qui défend la montagne et le rapport de la population à ce milieu sauvage, encore un peu sauvage. Qui est la montagne. En même temps, on travaille beaucoup sur l'accès à la montagne et ces questions-là. Donc, madame, messieurs les députés, merci d'être là. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de se voir souvent. Dans la Maurienne, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a des associations locales qui se battent, et bravo à VAM, des lanceurs d'alerte, mais on a aussi des mouvements nationaux. Alors, je parlerai pas de FNE, peut-être qu'il y a des représentants, ils parleront par eux-mêmes, des associations nationales comme Montagne Wilderness ou la CIPRA qui font partie de ce combat et qui sont opposés au Lyon-Turin depuis très longtemps. Tout petit historique, rapidement, en quelques mots, mais au moment où tout le monde en France était pour le Lyon-Turin, dans les années 2004 à 2010-12, il y avait deux personnes qui étaient contre et qui se battaient. C'était un militant de la CIPRA, Pierre Moreau, qui avait entretenu des liens avec le mouvement Notave et qui avait creusé le sujet. Et puis un écologiste qui avait une résidence secondaire là-bas, Emmanuel Cou, qui ont fait un boulot d'enfer toute cette période-là. Et puis à partir de 2012, enquête publique, on s'est rendu compte que ce projet, à l'époque, les écologistes étaient pour le Lyon-Turin. 2012, l'enquête publique, on constate en lisant les documents qu'il y a un loup, qu'il y a des choses qui vont pas, parce qu'on nous promet un tunnel, mais quand même encore 700 000 camions sur la route. Donc on se dit c'est pas possible, on fait pas un tunnel pour qu'il y ait encore 700 000 camions sur la route. Ça a interrogé, on a creusé, on a approfondi, et puis petit à petit depuis 2012 les associations nationales, locales, les partis politiques progressivement deviennent opposés au Lyon-Turin. Alors, je ne vais pas faire tout l'historique en disant par où on est passé, mais très très brièvement, LFI est devenu opposé il y a pas si longtemps, mais c'est super. Génération, c'est encore plus récent. Greenpeace, ça fait quelques mois. Et petit à petit, les mouvements deviennent comme ça opposés au Lyon-Turin. Et c'est tant mieux. Dans le même temps, les organisations, les grosses organisations comme celles que je représente, on a eu plusieurs soucis, notamment celui d'avoir des financements complètement coupés de la région, qui font que c'est assez difficile pour nous d'agir sur ces terrains-là. Mais deux trois choses quand même pour expliquer les liens. D'abord, la CIPRA, Commission internationale pour la protection des Alpes, a été créée pour surveiller la mise en place de la Convention alpine. Convention alpine, c'est un traité international qui regroupe tous les États traversés par les Alpes pour protéger les Alpes. Il y a plusieurs protocoles. Je parlerai que de deux. Le protocole transport dit que normalement on ne peut plus augmenter la capacité de trafic d'autoroutes et de routes pour traverser les Alpes. Or, le projet dont Daniel a parlé de doublement du tunnel autoroutier contrevient complètement à cette convention alpine qui est pourtant signée par tous les États et soutenue par l'Union européenne. Donc ça, c'est un point important. C'est un point d'appui juridique pour vous qui est fondamental d'utiliser tout le contenu de la convention alpine pour se battre contre ces deux tunnels, autoroutiers et ferroviaires. Autre protocole, agriculture. Sur l'agriculture, on n'en a pas parlé du tout. Le projet du Lyon-Turin va aboutir à la suppression de 1500 hectares de terres agricoles et d'espaces naturels, dont certains protégés, notamment vers l'île d'Abo. C'est très loin d'ici, c'est pas les Alpes, mais ça nous concerne aussi. Et ça, c'est très important, il faut le redire. À un moment donné où tout le monde parle, c'est aujourd'hui qu'on a ouvert, je crois, le salon de l'agriculture, non ? De la souveraineté alimentaire. Donc, on voit encore des terres disparaître. Et puis, le dernier point que je voulais dire, pour être très court, Montagne Wilderness travaille depuis maintenant plusieurs années avec un dispositif qui s'appelle « Changer d'approche ». Où, plutôt que d'être dans le blabla et la grande discussion, Montagne Wilderness a mis en place une multiplication d'itinéraires pour atteindre la montagne et les espaces préservés, les espaces qui font rêver tout le monde, sans voiture. Donc on peut partir de Chambéry sans voiture, de Grenoble sans voiture, de Paris sans voiture, et d'ailleurs, pour faire de l'escalade, pour faire de la randonnée, pour faire du ski de randonnée, etc. Aujourd'hui, il y a 15 000 itinéraires qui ont été comme ça préparés, qui sont disponibles, tout le monde peut aller les consulter sur Internet, mais c'est pour dire qu'il y a d'autres moyens d'atteindre la montagne. Et un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, et pour lequel on demande, oui, le report modal des marchandises, c'est absolument fondamental, mais aussi le report modal des voyageurs, et aujourd'hui c'est un bon exemple, moi j'ai mis deux fois plus de temps pour venir ici que d'habitude, on a 85% des touristes qui viennent dans les Alpes en voiture individuelle. Et il faut absolument qu'on organise le transfert modal des touristes sur le train également. C'est une autre dimension, une autre obligation qu'on a avec les cheminots, avec les cheminotes, avec les associations pour mettre en place ce grand transfert modal. Le transport, c'est le premier point du bilan carbone des stations. Merci à tous. Merci.